28 mai 1995, 14e conférence.
En changeant les heures, j'ai l'avantage de ne pas terminer. Donc je vous laisse la parole pour terminer. Allez, c'est poli. Et je comprends très bien, et je crois que c'est beaucoup mieux, parce que ça pose des tas de questions, ce que je vous ai dit, hein. Je suis tout à fait d'accord, ça peut bouleverser. Je vous donne le fruit de 50 ans de philosophie. Rendez plus de service à l'Église en enseignant la philosophie à Fribourg qu'en allant prêcher à des contemplatifs. Ça, alors j'étais complètement renversé. Et puis le Saint-Père en dernier lieu. Vous voyez là, quand on a comme ça des gens qui, et pas n'importe qui, n'est-ce pas, qui ponctuent et qui vous disent vous devez faire ça. Et le Saint-Père me dit même vous devez former des successeurs. Avec la grâce de Dieu, le voyez, hein. Entendez. C'est vous aussi. Entendez. Le Saint-Père tient beaucoup parce qu'il sait. Il l'a dit dans son encyclique, Splendor Veritatis, on est en présence d'une crise de la vérité. Et je me suis toujours demandé quel est le moment où Jésus parlait en philosophe, étant donné qu'il s'adapte parfaitement à tous ceux avec qui il parle. Avec Nicodème, il parle en théologien. Et il nous donne une grande leçon de théologie. La plus grande leçon de théologie qui a été donnée. C'est la leçon de Jésus à Nicodème. À la Samaritaine, il parle aux pauvres femmes qui ont sur leur dos pécheresse publique. Pas drôle. Et à Pilate, il parle en philosophe. Ça, c'est très net. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et ça, c'est très beau. À ce moment-là, les gens qui devaient faire un peu de politique et être serviteurs de César faisaient la philosophie. C'était la philosophie stoïcienne, qui est une philosophie politique. Et donc Pilate, et c'est pour ça quand il dit qu'est-ce que c'est que la vérité, c'est pas du tout une moquerie, c'est très sérieux. Pilate a été très saisi par Jésus, déclaré par trois fois selon l'évangile de Jean, cet homme est innocent. Il fallait beaucoup de courage, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. grande leçon de philosophie. Un jour, si Dieu me prête vie, je voudrais développer ça au plan philosophique. Montrer le passage du stoïcisme à une philosophie réaliste. Puisque je suis pas voir qu'une philosophie réaliste qui cherche la vérité sur l'homme et de connaître l'homme. Bon, continuons. Vous comprenez qu'on pourrait beaucoup creuser sur ces cinq voies, étant donné l'importance. Essayez d'affiner le plus qu'on peut. Ce qui est sûr, alors là j'en suis de plus en plus convaincu, que c'est par la finalité seule qu'on peut remonter jusqu'à Dieu. Et c'est pour cela, en tant que théologien je peux le dire, c'est pour cela que le démon a attaqué la finalité de cette manière si forte depuis le XIVe siècle. Et à l'intérieur même des théologiens. Quand même quelque chose d'assez étonnant ça. Voyez, les preuves de l'existence de Dieu se font grâce à un appétit de vérité. Si mon intelligence n'est pas tendue vers la vérité, si elle ne recherche pas la vérité plus que tout le reste, on ne peut pas découvrir l'être premier. Puisque l'âme de toute induction, c'est l'interrogation. Et l'interrogation, c'est l'appétit de l'intelligence. C'est l'intelligence en son désir de vérité. Et l'intelligence cherche à atteindre, à dépasser l'expérience pour découvrir la source. Et la source première, la source ultime, fondamentale et ultime, la source de l'être, de ce qui est la source de l'esprit, lié à l'être, la source du « je suis ». Cela me semble capital. Et cet amour de la vérité fait que l'amour est présent et au secours de l'intelligence. Vous voyez, dès que je découvre l'existence de l'être premier et que je veux répondre d'une manière intelligente et humaine à cette découverte, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est le premier amour à l'égard de Dieu. C'est le geste de politesse à l'égard de Dieu. Je salue celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est mon créateur. C'est la première fois que je rencontre quand j'adore. Je l'ai bien découvert, mais dans cette découverte, c'est mon intelligence qui enlève le plus qu'elle peut le voile, tout ce qui risque d'être de la brume et des images pour atteindre de la manière la plus pénétrante celui qu'ils appellent Dieu. N'oubliez jamais ça, que ce sont les traditions religieuses qui nomment Dieu, ce n'est pas le philosophe. Le philosophe découvre l'être acte pur, l'être intelligence pure, l'être bonté pure, celui que les traditions religieuses appellent Dieu, l'être premier. Dès que j'ai découvert cela, toute ma vie est changée. Je pourrais dire, toute ma vie peut changer. Et ajoutons, toute ma vie doit changer. Et d'une certaine manière, quand j'ai découvert l'existence au premier, je peux tout reprendre. Après avoir saisi la relation qui existe entre cet être premier et moi-même, mon je suis, avoir découvert que mon autonomie est toute relative à l'être premier, mais relative à l'égard de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut que j'ai cette autonomie. Et Dieu veut que je vive de cette autonomie. Vous voyez, la découverte de l'être de Dieu ne supprime pas mon autonomie. Au contraire, il la confirme. Parce que Dieu veut que je sois une créature capable de le découvrir et de l'aimer. Que je sois une créature capable de poser des actes libres de choix. Donc la découverte de l'être de Dieu, loin d'être ce qui m'aliène, me donne de l'air pur, un air beaucoup plus excellent que tout ce que j'ai jusque-là. Je suis sur les hauts glaciers et j'ai une pureté merveilleuse. Et je crois ça, pour nous, c'est capital de découvrir ça et de le comprendre pour ne pas se laisser contaminer par les conséquences de toutes ces idéologies athées qui risquent de vouloir nous donner une nouvelle religion. La religion de l'humanité, celle qu'Auguste Comte avait proclamé. La religion du cosmos, du tout. Je me baigne dans le tout. Et comme le tout est chaud. Et un bon bain de soleil, c'est très religieux. Non ? Puisque j'ai chaud. Et n'oubliez pas la différence entre le ronron du chat auprès du feu et le vol de l'aigle. Faut pas oublier ça. Et de temps en temps, demandez-vous si c'est le ronron du petit chat qui est heureux. Vous voyez, il y a une tentation aujourd'hui de vouloir redécouvrir une nouvelle religion qui est dans un syncrétisme absolu. C'est très tentant. Non, c'est pas très tentant, mais pour beaucoup de gens, c'est très tentant. Non, parce que dès qu'on a découvert ce que c'est qu'une relation personnelle, on ne peut plus accepter ça. Il faut avoir découvert ce que c'est qu'une relation personnelle. Parce que moi, j'ai jamais donné la main au tout. Et si Dieu, c'est le tout, non, Dieu est une personne. Et le philosophe atteint, affirme que Dieu est une personne. Et le philosophe peut montrer que Dieu ne peut pas être un tout. Synthèse de tout. Non, il est une personne. Parce que ce qu'il y a de plus noble et de plus grand dans toutes les réalités que j'expérimente, c'est la personne humaine. Il y a une noblesse dans la personne humaine, unique. personnel. C'est toujours ce qu'il y a de plus grand. La politique est ordonnée en relation personnelle. Et je ne peux pas être un vrai politicien sans avoir le sens des relations personnelles. C'est l'amour d'amitié. Et je crois qu'on doit redécouvrir ce qu'est l'amour d'amitié. Et c'est capital dans notre monde d'aujourd'hui. Quand on a découvert ce que c'est que l'amour d'amitié, on ne peut plus tomber dans la religion de l'humanité. Impossible. Parce que Molière est là, qui rit. Vous savez, quand il dit que aimer l'humanité, ce n'est pas son fort. Et c'est vrai. Je ne peux pas aimer le tout. Impossible. À moins que je ne sois déjà dilué dans le tout. D'amour. grâce à l'intelligence qui éclaire cet amour. Je sais que Dieu est mon créateur et que je lui dois tout. Et donc cet acte d'amour est un acte de reconnaissance, d'action de grâce. On dit merci. Et on reconnaît cette totale dépendance dans l'amour. Et à partir de là, il y a un lien qui se réalise au plus intime de mon cœur avec le Dieu créateur. Je suis relié avec lui. Je suis relié avec lui. Vous voyez, le premier acte de la vertu de religion, c'est la dévotion au très très grand sens du mot. Oui, pas dévotion au sens liturgique du cierge mis à Saint-Antoine. Ça c'est très bien. Mettre des petites violettes à Saint-Trita, très très bien. Oui, parce que c'est la violette, c'est le souvenir, vous comprenez donc. Et Saint-Trita, c'est les causes désespérées. Des violettes à Saint-Trita. J'ai beaucoup de succès de faire une belle statue à Saint-Trita avec un bouquet de fleurs de violettes. C'est pas ça la dévotion au sens fort. C'est reconnaître un lien de dépendance volontaire dans l'amour. Je suis relié à Dieu. Dieu m'aime. Il a voulu que j'existe dans un amour gratuit qui ne change rien, absolument rien à Dieu. Contrairement à toutes les théories panthéistes, Dieu ne peut pas être changé, il est Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est immobile, glacial. Pour nous, immobilité, c'est la glace. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Quand Dieu dit « non mutor, je ne change pas », ça veut dire il est un amour parfaitement en acte et qu'il est don. Quand on est parfaitement en acte d'amour, on ne change pas. Parce qu'on aimerait moins. On ne peut pas changer. Parce qu'on aime totalement, jusqu'au bout. Et on peut dire, quand cet amour demeure, on peut dire qu'il ne change pas. L'amour, comme tel, demande de demeurer. D'être fixe, d'aller toujours plus loin dans sa gratuité. Et c'est vrai, on s'aperçoit, non seulement on s'aperçoit, mais on sait que Dieu, en créant, pose un acte gratuit dans toute sa perfection. Et la nostalgie de Sartre, l'acte gratuit, c'est la nostalgie d'être Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut poser des actes absolument gratuits. Nous, jamais. Ils sont jamais totalement gratuites. Parce qu'on sait qu'en posant un acte gratuit, on devient meilleur. Donc, et on le sait. Et on l'accepte. Tandis que Dieu, en posant un acte gratuit, ne devient pas meilleur. Il n'y a pas le Dieu avant la création et le Dieu après la création. C'est le même Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et on est relié à lui par l'adoration. Oui, c'est un nœud, l'adoration. Mais pas un nœud mauvais qui empêche d'aller plus loin. C'est un nœud qui me permet de m'appuyer de toutes mes forces sur celui qui est mon créateur. Et sur la volonté même d'amour de Dieu. Je m'appuie de toutes mes forces pour être moi-même, pour être pleinement ce que Dieu veut que je sois. Et comme il m'aide d'un amour qui dépasse tous les autres amours, dans cet amour de Dieu créateur, je puis être moi-même. C'est pour ça que l'acte de création, c'est cette respiration profonde de mon âme spirituelle qui se découvre petite fille de Dieu, se découvre aimée de Dieu, qui se découvre toute relative à Dieu, toute dépendante de lui, et recevant de lui cette autonomie. Il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, c'est devant cela que Feuerbach a dit qu'il y a une contradiction. Pourquoi ? Parce qu'il confond l'autonomie de la vie spirituelle et l'autonomie de l'être. Dieu crée des êtres dépendants de lui, radicalement dépendants de lui dans leur être. Mais il fait que ces êtres sont suffisamment parfaits pour qu'ils aient une autonomie vitale, spirituelle, donc vitale, la vie de l'esprit. Et plus nous reconnaissons cette dépendance, plus notre autonomie vitale est forte. Et nous pouvons choisir librement d'aimer Dieu, de l'aimer comme notre source. C'est pour ça que l'acte d'adoration est si important dans notre vie. C'est la respiration profonde de notre âme. Et en même temps, voyez, cette espèce d'ouverture merveilleuse, s'appuyer sur Dieu pour être capable de regarder dans la lumière de Dieu. Et c'est pour cela qu'à partir de l'adoration, je sais que je peux avoir un regard nouveau sur l'homme. Parce que l'acte d'adoration va engendrer en moi ce qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de religion est une vertu acquise qui provient de mes actes d'adoration. Et je deviens alors à ce moment-là un homme religieux, c'est-à-dire relié à Dieu. Un homme qui n'a plus peur de Dieu, relié à Dieu, et qui l'aime. Et je suis la 7e dimension de la personne humaine. Un être religieux par l'acte d'adoration. Alors c'est ça qu'il faut aujourd'hui à tout prix réhabiliter. Voyez, dans une certaine forme de laïcisation, il peut y avoir une laïcisation qui est très bonne, c'est respecter le domaine de l'homme. Ne pas confondre la nature et la grâce. Ça, c'est bon. C'est même nécessaire. Mais dans une certaine forme de laïcisation, on considère que découvrir l'existence de Dieu et adorer je suis le fruit de son amour. Tout ce qui est en moi de plus radical et de plus profond est le fruit de son amour. Et parce que Dieu m'aime tant, je peux m'aimer. Un des dangers, vous savez bien, de ce primat de la négation. Un état d'errance, puisqu'il ne sait plus où se trouvent ses parents. On a tous rencontré dans notre vie des orphelins qui ne savaient pas qui était leur vrai père, leur vraie mère. Et j'ai vu le cas. M'étonné de voir, vous savez, les sœurs de l'extérieur qui parlaient beaucoup. Puis quand je l'ai connue, elle m'a raconté son histoire. Alors à ce moment-là, j'étais en admiration devant elle. Et non plus du tout l'inverse, un peu scandalisé. À 20 ans, elle a voulu à tout prix rechercher qui étaient ses parents. Elle avait été prise. À ce moment-là, c'était. Ils prenaient. On les confiait à des familles. Elle avait su ça, et elle avait pu petit à petit remonter. Et elle a découvert que son père et sa mère étaient en prison à perpétuité. Mais. Ce que ça peut être, savoir jamais connu. Elle était très heureuse, voire reconnaissante à l'égard de ceux qui l'avaient adoptée. Mais c'était plus fort qu'elle. Il fallait savoir. C'est ce que ça peut porter comme poids. Et volonté et notre affectivité par l'adoration. Et on reconnaît à ce moment-là qu'on est un être religieux, c'est-à-dire capable d'adorer, capable de se relier profondément à sa source. Cette source étant la volonté libre de Dieu, le choix libre de Dieu. Toute notre vie dépend d'un choix libre d'amour de Dieu pour nous. Et ce choix est actuel, puisqu'il est éternel en Dieu. Donc il est toujours actuel pour nous. Et nous le rejoignons. Et dès que nous le rejoignons, nous sommes dans l'attitude de celui qui adore. Adorer, c'est reconnaître qu'on est dans les mains de Dieu. C'est reconnaître que nous sommes enveloppés de cet amour. Alors c'est ça qui est très beau, vous voyez. Parce que l'adoration fait le lien mystérieux entre ce qui est de la créature et ce qui est du Fils et de l'enfant de Dieu en Dieu. C'est le lien entre la nature et la grâce. C'est le lien entre la créature et la recréature, la recréation, le don de la grâce. C'est l'adoration. Puisque elle existera, et l'adoration existera éternellement. Dans le ciel, nous adorons. L'Apocalypse montre bien. Et l'Apocalypse a une physionomie très très belle. Tu vois, une expression très très belle pour nous dire ce que c'est que l'adoration. Quand on voit les 24 vieillards, ils adorent. Ils adorent en jetant leur couronne. Donc, on ne peut adorer Dieu qu'en acceptant qu'on est créature. Le président de la République, comme président de la République, n'adore pas Dieu. Mais le président de la République, étant un homme, étant une créature, peut adorer Dieu. Il doit jeter par terre sa couronne. Le savant, comme savant, ne peut pas adorer. C'est l'acquis. Sa qualité. Mais le savant est un homme. Il entend comme il adore. C'est pour ça que c'est si bon pour les enfants de voir leur père adorer à côté d'eux. C'est si bon quand on aime quelqu'un et qui connaît ce que nous sommes au point de vue chrétien et que lui-même aussi, d'adorer ensemble dans le silence. L'adoration, elle est silencieuse dans ce qu'elle a de plus profond. Elle peut s'exprimer à travers le corps, à travers les gestes. Ça, c'est beau. Même à travers des cantiques. Mais la véritable adoration est silencieuse. Parce que c'est le premier amour à l'égard de Dieu dans lequel on reconnaît sa vraie place de petite créature dans les mains de Dieu. Et si aimé qu'on soit de Dieu, dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre chrétien, on demeure toujours une créature totalement dépendante de Dieu. C'est pour ça que c'est à partir de là qu'on peut tout regarder dans un nouveau regard sur l'ordre. Le regard de sagesse théologique. Et je dis bien de sagesse théologique, puisque c'est à partir de Dieu. À partir de l'acte créateur, je peux me connaître d'une manière nouvelle. Et tout est modifié dans ma vie humaine, dans la lumière de l'acte créateur de Dieu. De l'acte créateur de Dieu et dans l'acte d'adoration de moi qui rejoint cet acte créateur de Dieu. Vous voyez, d'une certaine manière, ça ne modifie rien. Mais du côté de l'exercice et de la finalité, ça transforme tout. Si on adore croirait vraiment. Je crois qu'on lutte par là d'une manière très efficace contre l'angoisse. Mais il faut le faire avant que l'angoisse arrive. Une humanité qui n'adore plus, elle se voue à l'angoisse. Parce qu'elle ne sait plus où elle va. C'est une humanité errante. Elle descend le fleuve. Elle ne remonte plus la source. C'est très très important pour nous. Et par l'acte d'adoration, je comprends pourquoi je fais de la philosophie. Je comprends le sens de ma philosophie dans le sens le plus intime, le plus profond. Parce que toute ma philosophie, elle m'aide à comprendre ce qu'est la personne humaine. Et la grandeur et la noblesse de la personne humaine. Donc, elle me m'aide à comprendre la grandeur d'une personne humaine qui adore et qui reconnaît sa totale dépendance à l'égard de Dieu. Alors, vous comprenez ce que je vous ai déjà dit, qu'à partir de cette adoration, il y a un nouvel appel de l'intelligence. Est-ce que je peux connaître d'une manière nouvelle ce qu'est d'être premier et le contempler? Parce que ce qu'il y a de tout à fait particulier lorsqu'il s'agit gymnastique métaphysique de l'intelligence et du cœur qui permet d'entrer dans cette contemplation. C'est de l'acquis, hein, c'est pas une grâce infuse. Tout homme est capable de faire ça. Mais c'est la vieille parole d'Aristote qui dit que la sagesse spéculative est née chez Égypte parce qu'ils avaient des loisirs. C'est très très joli ça. Il faut avoir un peu de loisirs pour pouvoir contempler. Pour faire un peu de philosophie et arriver à contempler. Et c'est quelque chose de tellement grand que ça mobilise tout ce que je suis dans toutes vos questions. Faites-le, parce que y a sûrement des arêtes où vous avez de la difficulté d'entrer. Et puis on a des tas de difficultés parce qu'on vit hein, une culture qui n'est pas du tout philosophique, qui n'est pas du tout métaphysique, qui n'est pas du tout religieuse. Alors c'est très difficile. Je vous remercie de votre écoute. Je vous salue, Marie.